Un autre livre, un essai sur Ponge, écrit en 1963 par Philippe Solers dans la collection Poètes d'aujourd'hui chez Segers, vient d'être réédité. 4 ans plus tard, le 11 mars 1967, leur rencontre avait été aussi fixée.
France Culture présente une série d'entretiens avec Francis Ponge par Philippe Solers. Aujourd'hui, premier entretien, conditions de travail de quelqu'un qu'on appelle encore un poète. Première partie.
Francis Ponge, pour commencer ces entretiens, il me semble qu'il ne serait pas inutile d'expliquer comment l'individu qui va vous poser des questions a été amené à s'intéresser à celui qui va lui répondre, c'est-à-dire vous. Il me semble que dans cette société, toute valeur doit être cherchée en marge, à l'écart, et dans une position de contestation, qui implique à la fois une technique positive et un refus de tout compromis théorique et pratique. Si je me réfère à mon expérience personnelle, j'ai lu pour la première fois un texte de vous, par hasard, dans une anthologie. Ce texte, c'est Les Escargots. J'étais très jeune, mais l'impression ressentie a été immédiatement celle d'un anti-lyrisme, d'une volonté de communication neuve, d'une sortie du manège, comme vous diriez, d'une sortie du ronron poétique et d'une reconsidération élémentaire, lexicale, sensible, à la mesure d'une crise radicale. Ce texte que j'ai commencé par lire m'a donné envie de lire tout ce que vous écriviez et je suis obligé de noter que pour vous lire, il faut accomplir un travail. Que par conséquent, il faut partir d'une périphérie. On prend contact avec un texte de vous, mais si l'on veut vraiment lire ce premier texte, il faut parcourir un très long chemin. Ces entretiens, je voudrais les placer sous le signe de votre refus de la qualification de poète. Que vous nous disiez pourquoi et comment cela vous a amené à travailler dans l'ombre. Puisque l'on nous a demandé de parler ici, et sans que nous soyons dupes de la levée d'une censure qui, en ce moment même, peut-être, frappe des recherches inconnues, qu'avons-nous donc à dire des rapports de contestation qu'un travailleur de votre sorte entretient avec la société où il vit? Autrement dit, quelle est la condition qui vous est faite? Comment vous, Francis Ponge, avez-vous réussi à venir jusqu'à aujourd'hui à la radio, par exemple? Il me semble qu'il ne faut pas cacher à l'auditeur, ces coulisses de l'information, par lesquelles les lecteurs et les auditeurs, justement, doivent se rendre compte que ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent ne se manifeste jamais qu'à travers une multitude de relais, de filtrages, et dans un contexte que l'écriture ou la parole telle que vous l'entendez ont pour fonction de penser. Je voudrais vous demander si vous êtes conscient des tentatives incessantes de récupération et de déviation qui ont pour but de masquer la réalité d'un travail, ce travail dont vous allez nous parler, au profit d'une idéologie stérilisée, noble ou tout simplement bornée.
Oui, rompant à mon tour, en cet instant même, et pour ce qui me concerne, le silence, je voudrais, comme je le fais toujours, saisir aussitôt la situation présente dans sa matérialité. Vous entendez un homme qui a choisi, voici longtemps, de vivre d'une certaine manière. D'agir d'une certaine manière. Quelle manière ? L'écriture. Vous entendez un écrivain, ou comme on dit parfois maintenant, un scripteur. Un homme qui a choisi de se refuser, en principe, à toute autre vie, à toute autre activité. Je parle donc, en ce moment, à défaut d'écrire. Et il va sans dire que je parle beaucoup plus mal encore que je n'écris. Au cours des entretiens qui suivront, il sera dit pourquoi et comment j'ai été amené à choisir cette activité, ou pourquoi j'ai été choisi par elle, et à décrire tant soit peu dans quelles conditions j'ai mené cette vie. Quels sont les avatars d'une vie consacrée à cette activité, à ce travail? Aujourd'hui, nous allons parler de l'un de ces avatars, qui est justement celui que je connais à nouveau aujourd'hui, je l'ai déjà connu, celui d'être invité à parler, celui d'être aux prises avec un organe d'information, d'avoir été choisi, élu, distingué par l'un d'eux et mis dans la condition à la fois de profiter de cette élection, de cette faveur et de...
On s'était rencontré, Philippe Solers, dans l'hiver, autour du poème de Rimbaud à une raison. Et dans ce livre qui vient d'être réédité, de votre Ponge, il y a toujours cette phrase de Rimbaud qui est toujours là, en exergue, arrivée de toujours, qui t'en ira partout, et qui aussi a une raison. Je me suis dit qu'il y avait un fil qui courait dans votre vie, que vous étiez finalement, quoi qu'on dise, fidèle à... ou peut-être quelque chose en vous est fidèle, peut-être plus que vous, mais il y a un fil, il y a ce texte de jeunesse, et puis aujourd'hui cet éloge aussi de l'infini, tous ces textes rassemblés, il y a cet engagement qui ne vous a peut-être pas quitté.
Alors c'est un engagement pour la raison. Ça peut paraître étrange, puisqu'il faut désormais, quand on parle de raison, oublier toute référence au rationalisme antérieur et parler d'une nouvelle raison, ou d'un nouvel amour, ça c'est Rimbaud. Et Ponge, par exemple, s'inscrit dans cette perspective. On parlait tout le temps de Lautréamont, de Rimbaud, de Mallarmé. C'est lui qui a écrit... justement à propos de l'appareil Maldoror Poésie, et qui sur Rimbaud avait des fulgurances très particulières comme dans nos conversations. Par exemple, un jour il s'était mis à vouloir écrire sur le prêt, et je lui cite la formule de Rimbaud, le clavecin des prêts. Il me dit arrêtez. Alors, il était très extraordinairement ému simplement par ce petit bout de phrase, le clavecin des prés. Après, il s'en est servi, d'ailleurs, je crois, dans le prés, il raconte l'anecdote où je lui dis ça. Donc, c'était constamment la raison à plus haut prix, c'est de lui, ça. Et la chose, alors, qui me paraît extrêmement importante, c'est de rappeler que pour lui, voilà, c'est une formule de Gautier, je ne sais pas pourquoi il rappelait sans cesse. Je suis quelqu'un pour qui le monde extérieur existe. Bon, vous allez me dire, le monde extérieur existe. Oui, alors. Or, pas du tout. C'est-à-dire que pour très peu de personnes, le monde extérieur existe. Ça veut dire alors qu'on est pris dans une subjectivité, une rumination subjective incessante et qu'on ne voit pas ce qu'on a sous les yeux. Ou alors que la poésie n'est toujours qu'une sorte de mélopée plaintive, subjective, fausse, enfin, qui n'atteint pas la raison d'être. Et je suis quelqu'un pour qui le monde extérieur existe, donc je vais être très polémique par rapport à tout ce qui se prétend poétique et qui n'est que spiritualisme ou psychologisme déguisé. Donc finalement, une empreinte religieuse qui n'arrive pas à être dépoussiérée, décrassée, etc. Bon, alors maintenant je vous dis par exemple, vous imaginez un asparagus. Vous avez vu des asparagus, vous les représentez très bien, je suppose. Sauf que tout le travail de Ponge, que ce soit l'œillet, la guêpe, le mimosa, un ciel de Provence, que ce soit le cheval, que ce soit l'ardoise,
la pluie,
la boue, l'eau, enfin, c'est de vous montrer que si vous représentez la chose la plus commune, que vous pouvez, mais finalement, qu'est-ce que vous auriez à en dire? Ah, peut-être un souvenir subjectif. Chez ma grand-mère, il y avait l'asparagus. Oui, il était là, c'est pas très bien. Mais qu'est-ce que c'est un asparagus? Voilà, c'est ça. Une lessiveuse, autrefois. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors là, faites-moi une description de l'asparagus. Alors, vous voyez, par exemple, ce qu'il admire chez l'asparagus. Alors, vous voyez bien un asparagus, là, vous y êtes. Hein, on va voir.
Léger, vert.
Oui, léger, ouvert, comme ça. Et oui, et alors hein. Ce que j'aime chez l'asparagus, c'est cette façon de plafonner par chacun de ses hauts étages, de ne présenter au salut de la lumière, ou mettons à l'atterrissage en douce des avions de la lumière, que le dos de ses mains à hauteur des lèvres suspendues, d'étendre aussi largement ses générosités, ses libéralités, ses largesses, c'est-à-dire non seulement l'ombre qu'il procure, mais ses pluies. Pluies fines, non seulement d'ombre, mais de graines. Car chacune de ses branches est un long nuage effilé, un large nuage profilé. Ça, c'est très beau. Regardez, je répète. Chacune de ses branches est un long nuage effilé, un large nuage profilé, comme ceux qui s'étirent à l'horizon, sur les plaines, aux heures des crépuscules, crépuscules d'Orient comme d'Occident, lorsque s'apaisent les vents. Ainsi s'immobilisent de longues rames de wagons, violets, abandonnés par leurs locomotives, quand celles-ci sont rentrées dans leur rotonde, leur rosace en verrière, qui s'empourpre et s'enfume, vraiment la rosace des vents, bouquet de larges anémones vues à travers des branches de cèdre. Bon. Alors, là, c'est très beau, parce que là, à un moment donné, vous avez en somme l'apparition de Claude Monet, là, très forte, c'est-à-dire vous avez les gares, la gare Saint-Lazare, par exemple, ou Manet. Qu'est-ce que c'est là encore que cette contamination réciproque de l'industriel et du végétal, bon. Mais là, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc, d'une part, alors, là c'est une méditation sur les fruits. Vous allez voir ce que ça donne. C'est drôle parce qu'on va passer à une méditation sur le temps. Alors, d'une part, les fruits, mais d'autre part, mais c'est la même chose. Les étoiles, les astres, les ampoules, ces globes, sources, ballons de lumière. Alors déjà, vous voyez, c'est-à-dire une ampoule, un fruit, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, c'est la provision de vie future qui brille si intensément, si calmement, assurée de son pouvoir, radiant et joyeux, de ressemer la vie. Peut-être la lumière n'est-elle, qualité seconde, que la joie. Les yeux brillants,
la lueur phosphorescente du pouvoir de ressemer la vie, la lueur de la ressource de vie, l'orgueil de la provision d'avenir. Ainsi, la lumière ne serait qu'une qualité seconde, mais elle éclaire. Elle éclaire ce qui actuellement vit, c'est-à-dire ce qui est en train de mourir. Le monde de l'étendue, les objets dans l'espace, une qualité seconde du temps. Le temps. Vous voyez qu'on est parti de loin, hein, tout à coup. Le temps, l'écoulement, le rythme serait premier. C'est très important, ça. Le temps, l'écoulement, le rythme serait premier. L'être est temps. Le temps.
Le rythme, on retrouve c'est... votre Heidegger chéri.
Oui, enfin, forcément. Dès que c'est juste, on va entendre quelque chose qui pense la métaphysique dans son fond et son dépassement. Alors, le temps, l'écoulement, le rythme serait premier. Le rythme, c'est aussi, c'est pas seulement le flux, c'est l'ajointement, c'est, hein, le rythme. Ça. Vous êtes dans le rythme, vous n'êtes pas dans le rythme. Et là, bon, j'y ai. Le temps, l'écoulement, le rythme serait premier. L'espace, la lumière, ne viendrait qu'ensuite, comme apparence et qualité seconde. Vous voyez à quel point on se tromperait en se croyant toujours dans l'espace, alors que c'est le temps qui rythme derrière tout, n'est-ce pas ? Vous pouvez mettre Dieu dans l'affaire, c'est pas interdit. Mais enfin, il faut aller au fond un peu des choses. La lumière n'étant que les yeux brillants du temps. Ah, ça c'est très très bien. La lumière n'étant que les yeux brillants du temps, et en effet, si je vous regarde dans les yeux et que vos yeux sont éclairés, ce que je vois à travers vous, c'est le temps qui est en train de passer à travers vous, etc. Donc c'est très émouvant en même temps, dans les yeux, mais pas seulement dans les yeux. La lumière n'étant que les yeux brillants du temps noué en fruit, ça c'est très très étonnant comme formule, hein, du temps noué en fruit, en astre, provision de temps futur, d'avenir, de vie. Alors, conclusion provisoire, les fruits, les astres, les ampoules, vous voyez là, tout de suite les dimensions extrêmement lointaines les unes des autres même. Les fruits, les astres, les ampoules, l'abricot, le soleil, les fruits, les astres, les ampoules ne seraient que des nœuds du temps, brillants à cause de leur pouvoir, de leur joie de pouvoir ressemer la vie. Alors, vous voyez que ça nous sort beaucoup de beaucoup de choses. La dépression, la mélancolie, le subjectivisme, le psychologisme, le ravage de genre.
Il y avait déjà ce texte, il y avait ce texte Raison de vivre heureux aussi, voilà, qui était ancien. Hein,
Raison de vivre heureux, voilà. Voilà. Mais l'asparagus, cèdre fin, étend là-dessous ses tapis. Étant là-dessous ses draps, comme les draps sauveteurs des pompiers, pour y recevoir, et qu'il ne tombe ensuite que doucement à terre, qu'il ne rejoigne que doucement la terre, les corps des anges de la lumière, sautant hors de la maison incendiée, du gratte-ciel, de la tour incendié. Ainsi, l'asparagus étend-il ses tapis, ses tamis superposés, ses tapis étagés, ses palmes protectrices. Ses draps qui cachent la terre aux anges, leur cachent la mort. La brisure cache et escamote la douleur et la mort, en même temps qu'il cache à la terre la chute, l'éblouissante chute des anges, rayon de soleil. Cache le sol aux anges, cache les anges au sol, à chacun épargnant la blessure, par éblouissement ou brisure, et la mort. Voilà donc sa protection, l'asparagus, sa protection sur deux faces, à double sens, recto verso. Voilà. Et alors, il rajoute encore quelque chose. C'est très bon, on pourrait s'arrêter là. Mais pas vraiment. Gradation, élévation graduelle du geste de porter la main en visière sur les yeux. Étages en galta, étagères. Effilés et puissants planeurs sédentaires. Hein, paradoxe. Planeurs étales et sédentaires. Planeurs étales et sédentaires. Vol étagé de puissants planeurs étales et sédentaires. Bon, alors on a vu beaucoup de choses, on en a pensé pas mal en cours de route, et ce n'est que quelques pages, et nous voilà sortis de tout ce que les poètes prétendent nous donner comme poésie.
Que savez-vous du soleil? Pourquoi l'esprit se met-il au chagrin?
Tout dans le cerveau, madame. 10 milliards de carrosses, chaque seconde, 10 000 idées dans chaque carrosse.
Alors il y a cette lumière aussi qui vous est proche aussi. Vous parlez aussi d'éclaircissement, que écrire, vivre, c'est aussi toujours rechercher cet éclaircissement, éclaircir les choses ou les faire apparaître dans la langue.
Il y a le mot allemand, c'est Aufklärung, hein. Bien sûr. Les lumières. Alors, les lumières sont l'objet d'un préjugé négatif. On croit que c'est la raison des lumières qui aurait amené les catastrophes. Eh bien non. Et c'est le combat des lumières. Et on ajoute simplement une lumière supérieure, supplémentaire aux lumières. On ne se réfugie pas dans la nuit de l'absolu où toutes les vaches sont grises, ni dans les différentes régressions religieuses ou fanatiques. On est au contraire très attentif à donner à la lumière plus d'espace et plus de temps. La définition de la lumière comme temps qui rythme l'espace. Alors, Saponge apporte ce qu'il a toute sa vie. Le soleil placé en abîme, c'est vraiment son plus beau texte, et qui le tourmentait beaucoup. Moi, je le voyais à cette époque, et vraiment, c'était quelqu'un qui ne se plaignait jamais, bien entendu, qui était tout à fait en pleine cogitation, comme ça, rythmique. Et alors, avec le soleil, il avait l'impression de toucher vraiment une sorte de folie.
Il y avait aussi le soleil se levant sur la littérature.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'était très intéressant de parler avec lui parce que c'était de son propre aveu. Donc, vraiment, la prétention était très grande. Et pourquoi pas, il faut qu'elle soit grande. C'était l'équivalent du coup de dé de Mallarmé. Bon. Il y a une chose qui n'est jamais relevée, j'en parle, je crois, quelque part, dans Éloge à l'infini. Il y a quelque chose qui n'est jamais repéré, c'est que Mallarmé, lorsqu'il a convoqué Valéry. Comme ça, il l'a invité à déjeuner. Puis après le déjeuner, il lui a dit tiens, venez, je vais vous montrer quelque chose. Il a fermé les volets. Il faisait du bateau, là, sur sa yole, était là sur la. Et puis, il a commencé à lui lire un coup de dé, jamais n'abolira le hasard, n'est-ce pas, en chuchotant. Alors, oui, ça, personne n'y a pensé. Quand bien même. Lancé dans des circonstances éternelles, du fond d'un naufrage. Voilà. Et ça change tout. Valéry note cette chose énorme. Puis après ça, il parle d'autre chose, il ne se rend pas compte. Pourquoi est-ce que Mallarmé lui a chuchoté un coup de dé, jamais d'abolir à tout ça? En général, les acteurs lisent ça. Je peux le faire aussi très rapidement. Tout le monde sait que ça existe, tout le monde s'y cogne. Mais enfin, bon, ça passe en somme inaperçu comme un astre. Que c'est. Calme bloc ici-bas, fut un désastre obscur. Ouais. Voilà. Un peu de clarté. Alors, un peu de clarté qui doit évidemment se mesurer à l'obscurité des temps. J'aime beaucoup le titre d'Anna Arendt, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui est traduit par Vie politique en français, c'est un magnifique livre. Men in dark times. Nous sommes des hommes dans des temps sombres, obscurs. Par conséquent, il faut que la lumière soit d'autant plus perçante. Si nous étions au XVIIIe siècle, portés par toute la civilisation, avec Mozart parmi nous, on pourrait se permettre beaucoup plus de choses. Nous devons nous concentrer à cause d'un certain nombre d'opacités, de trous noirs.